Bonsoir, cher Antoine.
Bonsoir, Arnaud Lapin. Bonsoir à toutes et à tous. J'essaierai néanmoins de vous éclairer. On avait fini hier soir la revue de presse sur un article de Vanity Fair. Quelques pages avant cet article, on trouve dans le mensuel un autre article intitulé « L'appel du Qatar ». Sur les rivages du golfe Persique, le nouveau haut lieu de l'art mondial ne cesse de se développer en se dotant de musées magnifiques, véritables joyaux architecturaux, assure ce qui s'avère un publi-reportage. Le Qatar ne manque pas d'attrait, mais c'est sa scène artistique florissante qui fascine le plus, lit-on encore. Le Qatar, c'est the place to be. Il ne faut pas rater ça. L'excitation dans l'air est palpable. Et si vous voulez la ressentir, c'est le moment d'y faire un saut et de vous autoriser une deuxième visite, car c'est certain, vous aurez envie d'y revenir, ou peut-être pas, car les temps sont durs pour le Qatar, nous apprend Lorraine Rossignol dans Télérama. Fini la folie des grandeurs qui prévalait depuis une décennie. Pensez donc, avec un baril de pétrole à $30 contre plus de 100 il y a seulement 2 ans, et au même moment un monstrueux budget assumé pour l'organisation du Mondial 2022, 189 milliards d'euros, du jamais vu dans le genre. Pour comparaison, en 2014, le Brésil avait investi 14 milliards d'euros pour le même événement. Pour la première fois de son histoire, le minuscule État du Golfe a dû, depuis le début de l'année 2016, remettre les pieds sur terre, et le cher Tamim bin Hamad Al Thani, l'émir du Qatar, s'est vu contraint d'opérer, comme tout un chacun, des coupes budgétaires, de procéder à des licenciements, de revoir des salaires à la baisse, de réduire de 2 à 1 le nombre de bouteilles d'eau distribuées quotidiennement à ses employés, arguant que le gouvernement ne pouvait plus pourvoir à tout. Première touchée, évidemment, la culture et la communication, même si les secteurs de la santé et des transports sont également concernés. Ainsi, Qatar Museums, l'autorité en charge de tous les sites et institutions culturelles, aurait-elle vu son nombre de salariés chuter de 1200 à 800, selon le quotidien britannique Financial Times, un chiffre non confirmé par cet organisme d'État dont la sœur du cheikh, la princesse Mayassa, a fait son affaire et qu'a toujours entouré la plus grande opacité, et 400 autres emplois seraient menacés. Les expatriés, qui représentent aujourd'hui 60% du personnel de Qatar Museums, sont en outre invités à rentrer chez eux avec leurs exigences de salaire et de train de vie. Objectif, que l'autorité culturelle soit désormais constituée de 90% de locaux, que ces derniers en aient les compétences ou pas. Par ailleurs, de multiples projets ont été repoussés, tels la création d'un musée de l'orientalisme, à l'étude depuis des années, d'un musée des enfants ou d'un musée de la perle. Le Qatar n'a longtemps été qu'un pays de petits pêcheurs côté golfe et de bédouins côté désert. Quant au superbe musée national conçu par Jean Nouvel en forme de rose des sables, son coût s'élèverait à 434 millions de dollars et qui aurait dû être inauguré cette année, il voit son ouverture repoussée à 2017. Alors que l'Émirat, qui a toujours pratiqué un jeu double avec l'Occident et l'État islamique, comptait sur le secteur touristico-culturel pour s'assurer un avenir, bien conscient du caractère éphémère de son pétrole, voilà ses plans de développement durable contrariés, franchement, plus tôt que prévu. L'histoire ne dit pas, en revanche, si la famille royale, très consommatrice de chefs-d'œuvre de l'histoire de l'art pour sa collection privée, dernière acquisition en date, un Gauguin de la première période tahitienne, Nafea Faipoipo, acheté 300 millions de dollars en janvier 2015, que ce qui fait de lui le tableau le plus cher du monde, juste avant les joueurs de cartes de Cézanne, acquis quant à lui pour seulement 250 millions de dollars par le Qatar aussi, évidemment, a dû également se serrer la ceinture. D'après une source de Qatar Museums, tel ne serait pas le cas. Ce qui se passe ici est totalement sinistre. Cela ne les empêche pas de continuer à acquérir de nombreuses œuvres pour autant. Quoi qu'il en soit, conclut l'article de Télérama, l'enthousiasme avec lequel certains avaient accueilli l'ouverture culturelle, entre guillemets, des dictatures du Golfe est pour le moins refroidi. Un enthousiasme qui pourrait bien se reporter vers l'Iran. L'Iran, un marché difficile à reconquérir, titrait lundi les pages saumon du Figaro, ce qui n'empêche pas, selon une brève de Beaux-Arts Magazine, après la reprise des relations diplomatico-économiques, le rapprochement culturel entre Paris et Téhéran. Lors de la visite du président iranien Hassan Rouhani en France en février, le musée du Louvre a signé un accord historique avec l'Iran. Au programme lutte conjointe contre le trafic d'œuvres, exposition sur la dynastie Qajar, 1789-1925 au Louvre Lens au printemps 2018, chantier archéologique de Nishapur au nord-est du pays. Le projet d'envoyer une équipe sur le site antique de Suse a aussi été évoqué, et l'art contemporain n'est pas en reste. L'artiste belge Vindelvoye expose un choix de ses œuvres au musée d'art contemporain de Téhéran jusqu'au 13 mai, lit-on dans l'Obs. Un signe d'ouverture de la part des autorités iraniennes qui n'en a pas moins incité le turbulent créateur à se montrer prudent. Il a renoncé à exposer dans la capitale iranienne l'une de ses œuvres les plus emblématiques, des peaux de porc tatouées tatoué de l'art, oui, mais pas du cochon.